Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Mes très chers frères, cette parole des rois mages est rapportée par l'évangile selon saint Matthieu dans cet évangile si particulier où nous voyons les mages venir d'Orient, arriver à Jérusalem. Jérusalem être troublée, et Jérusalem et le roi Hérode être troublés à cette nouvelle, et nous voyons des choses étranges qui aboutissent à l'adoration de l'enfant Jésus par les rois mages. Quand je dis choses étranges, nous allons les voir un petit peu, c'est la consultation de l'Écriture sainte pour connaître la vérité, c'est l'envoi des mages à Bethléem avec la demande de mener une enquête diligente sur l'enfant, avec, de la part du roi Hérode, la plus grande mauvaise volonté du monde. Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. La fête de l'Épiphanie célèbre le mystère de l'apparition de notre Seigneur au monde. Épiphanie, en grec, signifie apparition, dévoilement de notre Seigneur au monde. Il est né dans le secret de la grotte de Bethléem, il a été révélé au seul berger par les anges, et aujourd'hui, quelques jours plus tard, il se révèle aux nations dont les rois mages, nous disent les interprètes, sont les prémices. C'est en quelque sorte l'annonce du salut qui sortira de son rejet par les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas rejeté univoquement quand il est né, mais très peu ont été mis au courant. Les bergers sont venus et se sont réjouis et se sont étonnés de ce que leur a dit l'ange, et ils ont reconnu cet enfant emmailloté et couché dans une crèche. En revanche, aujourd'hui, c'est d'une façon publique que notre Seigneur apparaît, et c'est pour cela qu'en Orient, on fête l'Épiphanie d'une façon plus solennelle que Noël, puisque c'est l'apparition du Messie aux nations qui est le centre de la louange qu'on donne à Dieu. C'est aussi notre point de vue, puisque nous fêtons avec une grande solennité la fête de l'Épiphanie. Dans cette fête, il y a un grand mystère. Il y a en réalité trois mystères. Il y a l'apparition de notre Seigneur aux nations, dans la personne des rois mages. Il y a le baptême mystérieux de notre Seigneur, par lequel, nous dit la liturgie, il a purifié son Église de ses péchés. Et il y a le miracle de Cana, qui s'est opéré pendant ce mariage, mariage mystérieux, qui est l'image des épousailles de nos âmes par notre Seigneur. C'est un triple mystère par lequel la véritable intelligence entre dans les voies de Dieu. Alors nous allons essayer de voir ça avec l'aide du Saint-Esprit, mes très chers frères. Prions la très sainte Vierge Marie afin qu'elle intercède pour nous et qu'une fois de plus, nous puissions être éclairés par cette lumière éternelle. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
La post-communion est très importante, et elle retiendra notre attention pour un petit moment aujourd'hui. Écoutez ce que l'Église nous fera dire dans un instant à Dieu. Dieu Tout-Puissant, donnez-nous la pureté du cœur et de l'esprit pour entrer dans l'intelligence des mystères que nous honorons en ces fêtes solennelles. Presta cosumus omnipotens Deus, nous vous demandons, s'il vous plaît, Dieu Tout-Puissant, ut que, quae solemni celebramus officio, les choses que nous célébrons d'un office solennel, purificate mentis intelligentia consequamur. Par une intelligence résultant d'un esprit purifié, nous puissions ces choses les pénétrer, les comprendre. L'intelligence que l'Église nous fait demander à Dieu aujourd'hui, c'est l'intelligence d'un esprit purifié. Qu'est-ce qu'un esprit purifié? C'est un esprit qui est libéré, ou au moins qui commence à l'être, des scories de la chair, des scories du vieil homme, des scories de la nature déchue. C'est un esprit qui commence à être illuminé par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête de l'Épiphanie est une fête très lumineuse, si j'ose dire, puisque notre Seigneur apparaît dans la vérité de sa chair aux nations, puisqu'il est adoré par les rois mages, et en même temps, c'est lui-même, nous disent les pères, c'est lui-même qui apparaît en tant qu'une étoile brillante aux mages de l'Orient, et qui les conduit jusqu'à lui. Un auteur nous dit, paradoxalement, « La vérité est sur la terre et le signe est au ciel. » Le signe, c'est l'étoile, la vérité, c'est notre Seigneur, le Verbe fait chair pour nous les hommes et pour notre salut. Notre intelligence doit être purifiée de peur que, attirée vers le bas, alourdie par une intelligence impure, nous ne comprenions pas les choses de Dieu, comme malheureusement le roi Hérode et les scribes et les sacrificateurs de son temps n'ont pas compris ce qui se passait. Ils étaient capables de se tourner vers l'Écriture, nous y reviendrons, ils étaient capables de scruter les Écritures et d'en retenir le sens orthodoxe, véritable, mais l'idée ne leur est pas venue de suivre les mages jusqu'à Bethléem. L'intelligence d'un esprit purifié, c'est celle-là qui nous fait agir d'une façon qui plaît à Dieu. L'homme non baptisé ne peut pas plaire à Dieu, car son intelligence est en quelque sorte incrusté dans la chute, dans le mouvement de la chute, ce mouvement centrifuge. L'homme qui n'est pas baptisé est incapable de plaire à Dieu, alors même qu'il serait un brave homme, ce n'est pas ça la question du tout. Il est incapable de plaire à Dieu car son intelligence est dans les ténèbres. Il est encore sous le joug du diable. En revanche, l'homme baptisé, le chrétien, l'homme au sens propre du terme, l'homme pour lequel Dieu veut le salut, eh bien, cet homme doit veiller à ce que son intelligence soit purifiée, de peur que son intelligence ressemble à son état dans lequel il était avant le baptême. Qu'est-ce qu'une intelligence purifiée, l'intelligence d'un esprit purifié? C'est, par exemple, lorsque la religion est pratiquée sans mélange. On ne peut pas avoir l'intelligence d'un esprit purifié si la religion est menée plus ou moins de front avec la vie mondaine. Il y a beaucoup de chrétiens mondains qui vivent selon les maximes du monde, tout en professant d'être chrétien. Aujourd'hui, si l'on peut dire, c'est la chose la plus aisée du monde, puisque autrefois, le monde mondain apparaissait comme essentiellement pécheur, vaniteux, orgueilleux, ambitieux. C'était tous les vices qu'on pouvait imaginer, et puis les vices des qualités devenues, disons, outrepassées et profanées. Aujourd'hui, on peut vivre, donc si l'on voulait vivre selon les maximes de l'Évangile, il suffisait de se séparer de ce monde qui était un monde par ailleurs ordonné, qui était un monde traditionnel, disons. L'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire. En revanche, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie totalement mondaine, c'est-à-dire qui vivent une vie conforme, disons, aux tendances de la chair, aux désirs du vieil homme, et qui se réjouissent et se glorifient et se font une gloire d'être chrétiens. Malheureusement, la modernité rend ceci possible. C'est-à-dire qu'autrefois, on ne pouvait pas se glorifier d'être chrétien alors que tout le monde était chrétien et qu'il y avait un grand nombre de mauvais chrétiens. Aujourd'hui, on peut être un mauvais chrétien et se glorifier avec arrogance d'être chrétien. Vous voyez, évidemment, c'est un problème de notre temps, ce n'est pas vraiment l'intérêt de notre sermon aujourd'hui. Nous mentionnons cela simplement pour dire que l'intelligence d'un esprit purifié ne se trouve pas dans un tel chrétien, alors même que ce chrétien pourrait même aller jusqu'à souffrir un petit peu, même beaucoup, pour sa profession de christianisme. Je veux absolument installer une crèche en public, je fais profession de christianisme, mais il se trouve que par ailleurs je vis comme un mécréant. Je ne cite personne, c'est un exemple que je donne. Je fais profession d'être chrétien parce que je suis au milieu de musulmans, et je vis comme un païen, sauf que je suis très fier de leur dire qu'ils sont dans une fausse religion et que leur prophète est un faux prophète. Je n'en suis pas. Peut-être que je vais souffrir, mais je n'en suis pas chrétien plus chrétien pour autant. Je ne suis pas reconnu par Dieu pour vrai chrétien. Je n'ai pas accès à l'intelligence qui est le don, en quelque sorte, d'un esprit purifié. Purificate Mentis Intelligentia. L'intelligence d'un esprit purifié, c'est donc la religion pratiquée, c'est donc le résultat de la religion pratiquée sans mélange. C'est aussi, tout à fait différemment, la doctrine, le résultat de la doctrine tenue sans passion. Lorsque je m'approprie la doctrine orthodoxe et que j'en fais ma chose et que, d'une certaine manière, je suis plein de haine et de mépris pour ceux qui ne pratiquent pas la doctrine, je ne fais pas que pratiquer ce que dit le saint roi David lorsqu'il dit qu'il n'a que haine et dégoût pour ceux qui transgressent la loi de Dieu. Ce n'est pas du tout cela. Pourquoi est-ce que je suis très zélé pour la doctrine? C'est parce que j'attache mon honneur à la proclamation de cette doctrine, et celui qui est hétérodoxe me semble m'insulter personnellement. L'intelligence d'un esprit purifié ne vient pas lorsque la doctrine est tenue avec passion. Il faut être un témoin de la vérité, lorsqu'on est dans un état qui le nécessite, un prédicateur de la vérité, mais la vérité nous possède, et ce n'est pas nous qui la possédons. Ce n'est pas du relativisme que de dire cela, c'est tout simplement la condition pour avoir l'intelligence qui est le propre d'un esprit purifié. L'intelligence d'un esprit purifié vient aussi lorsque la dureté des maximes de l'Évangile n'est pas mitigée par la malice de notre volonté propre, de notre vieil homme. Je suis un vrai chrétien, mais en même temps, je me dis que bien des choses dans l'enseignement de notre Seigneur sont plus ou moins impraticables, ou alors qu'elles relèvent d'une sorte d'idéal qui, mise en pratique jusqu'au bout, apparaîtrait comme, en réalité, une sorte de stupidité ou de folie. Celui qui pense cela n'est pas forcément un mauvais chrétien. Celui qui pense comme cela est un chrétien qui pense que le bon Dieu n'en demande pas tant. Vous voyez, c'est souvent ce qu'on entend dire. Ce n'est pas du tout une application des commandements de Dieu, ce n'est pas du tout l'intelligence de savoir comment se comporter selon la volonté de Dieu dans telle circonstance qui est différente de telle autre circonstance. Je ne parle pas de la morale appliquée. Je dis quand on part de l'idée que, d'une certaine manière, le bon Dieu n'en demande pas tant parce qu'il sait très bien que, de toute façon, ce qu'il nous demande est absurde. Vous voyez, celui qui pense cela sera peut-être un bon chrétien, grosso modo, mais en réalité, il ne bénéficiera pas de cette intelligence qui est donnée à un esprit purifié et dont nous avons besoin pour célébrer dignement et solennellement les mystères d'aujourd'hui, de la fête de l'Épiphanie. Le Christ naît dans l'obscure grotte de Bethléem et il apparaît en Orient sous la forme d'une étoile brillante. Il mène les mages à lui-même dans son humilité. L'intelligence, qui est le propre d'un esprit purifié, connaît les voies de Dieu et se laisse guider par elles. Elle ne les connaît pas comme si elle participait de l'intelligence divine. Elle les connaît parce que, pas après pas, elle marche dans les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons nécessairement besoin de cette intelligence, sans quoi nous ne reconnaîtrons pas l'étoile. Et même avec cette intelligence, allons un petit peu plus loin maintenant, même avec cette intelligence, il se peut que nous perdions de vue l'étoile, comme cela a été le cas pour les mages. Le Christ leur est apparu sous cette forme, la forme d'une étoile, une étoile brillante dans le ciel, et les mages, au lieu de se laisser guider par la foi, en quelque sorte, ils ont usé d'une certaine raison, de telle sorte que, en quelque sorte, ils se sont égarés. Alors, loin de moi d'opposer la foi et la raison, bien entendu, ça serait une folie, puis ça serait une sottise surtout. Mais en réalité, il y a une certaine raison, en quelque sorte, qui procède d'une petite idée qu'on a des choses, et qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas la raison telle que Dieu veut que nous l'utilisions. Les mages se disaient, le roi des Juifs est donc nécessairement né à Bethléem, il est né à Jérusalem, qui est la capitale du royaume des Juifs. Donc, maintenant que nous savons que le roi des Juifs est né, et que nous avons suivi son étoile, arrivé en Terre Sainte, nous savons où aller, ce n'est pas la peine de regarder. Si j'ose dire, ce n'est pas pour nous moquer des mages que nous disons cela, c'est simplement pour les prendre comme exemple et voir que, quoique dirigés par l'étoile divine de notre Seigneur Jésus-Christ, il arrive souvent que nous égarions. Eh bien, même cela ne doit pas trop nous inquiéter, en réalité. L'égarement temporaire des mages à Jérusalem est l'image des erreurs des élus, nous dit un auteur. Je le cite. Les fautes et les égarements des élus servent ordinairement, par la miséricorde de Dieu, à les sanctifier davantage en redoublant leur vigilance, leur constance et leur ardeur dans le chemin de la vérité, et surtout en leur causant une très profonde humilité. Les mages ne se sont pas trompés mortellement, ils ne sont pas allés chercher notre Seigneur en Idumée ou en Grèce ou à Rome ou ailleurs. Ils sont bien venus là où il le fallait. La seule chose, même si Bethléem n'est pas du tout éloignée de Jérusalem, puisqu'elle est à quelques lieues de Jérusalem, en réalité c'est un village qui n'est pas très loin de la cité du grand roi, en revanche, d'une certaine manière, ayant cru que l'impulsion de l'étoile leur suffisait, ayant cru connaître quand même relativement bien ce qu'elle leur avait enseigné, ce qu'elle leur avait révélé, ils sont allés à Jérusalem, et lorsqu'ils sont entrés à Jérusalem, eh bien, ils ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » C'est une profession d'orthodoxie, c'est une profession de soumission à la volonté divine. Il n'y a aucun problème en cela. Mais que lit-on ? À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Cet égarement, en quelque sorte, temporaire, cette légère erreur de trajectoire, si je puis dire, des rois mages, a plongé la ville de Jérusalem dans la stupeur, et cette stupeur a poussé le roi Hérode à rassembler les princes des prêtres et les scribes du peuple et à s'enquérir d'eux où devait naître le Christ. Immédiatement, lorsque les rois mages arrivent à Jérusalem et parlent du roi des Juifs, celui qui était le roi des Juifs, parce que Hérode était l'héritier d'une dynastie de princes juifs, disons, il venait d'un peuple qui s'était converti à la foi de l'Ancien Testament et qui, pour diverses raisons, était devenu une dynastie qui régnait sur les Juifs. Donc, d'une certaine manière, c'était un roi, disons qu'on ne peut pas dire illégitime. Ce n'était pas un roi davidique, donc ce n'était pas un roi dans lequel devait naître le Messie. Lorsque l'on parle du roi des Juifs à Hérode, qui était pourtant le roi de cette époque-là, immédiatement il sait que l'on parle du Messie. Et c'est pour cela qu'il est troublé, loin d'être réjoui, loin de partager la joie des mages. Et il est troublé, et que fait-il? Eh bien, il a la meilleure réaction du monde. Il consulte les prêtres, il consulte les scribes, il consulte l'Écriture sainte. Ils lui dirent à Bethléem de Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, etc. L'esprit du chrétien qui erre un peu provoque le trouble autour de lui, dans le sens où cette Jérusalem, ces rois mages, cet Hérode, ces scribes, etc., représentent d'une certaine manière l'être humain dans ces diverses parties. Lorsque je cherche notre Seigneur à Jérusalem, alors qu'il est né à Bethléem, je provoque un certain trouble dont je ne comprends pas la cause, dont je ne comprends pas que je suis la cause. Hérode, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Au lieu de se réjouir ou d'enquêter sur ce que disaient les rois mages, ils ont provoqué le trouble. Les gens se sont troublés. Eh bien, mes très chers frères, lorsque le chrétien se rend compte qu'il, disons, est peut-être à côté de la volonté de Dieu, il doit se tourner vers l'Écriture sainte. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, Hérode, on ne peut pas le critiquer dans la mesure où il se tourne vers l'Écriture sainte, et je dirais même que non seulement il se tourne vers l'Écriture sainte, mais il se tourne aussi vers les interprètes autorisés. Les auteurs qui commandent ce passage disent beaucoup de choses sur le recours nécessaire aux interprètes autorisés de l'Écriture sainte. pour connaître l'Écriture sainte, pour comprendre son sens, il faut consulter les prêtres, il faut consulter l'Église, il faut consulter les pères, il faut les consulter les pères dans l'esprit de l'Église. Vous voyez, on ne peut pas ouvrir l'Écriture sainte et puis se mettre à interpréter comme le font les protestants, évidemment, ce qui les amène dans toutes sortes d'erreurs. En revanche, le recours à l'Écriture sainte est une chose fondamentale, nécessaire, et c'est elle qui est notre lumière. C'est elle qui est la lumière sur notre sentier. Lorsque les mages comprennent que le Christ est né à Bethléem et qu'ils se sont trompés en venant à Jérusalem, que font-ils? Eh bien, ils se dirigent vers Bethléem. L'esprit purifié sait se rectifier, sait retrouver l'étoile qu'il a perdue. Alors, vous allez dire, l'esprit, est-ce que c'est un esprit tombé dans le péché? Est-ce que c'est un esprit qui... On peut l'appliquer à ça, mais on peut appliquer aussi à toutes sortes de choses, de toutes sortes de circonstances. D'une façon générale, l'esprit purifié peut tomber dans certaines erreurs légères. Ce ne sont pas des erreurs concernant l'orthodoxie. Ce sont des erreurs concernant, disons, le chemin à prendre. Il peut errer quelque peu, mais en réalité, tant qu'il cherche la volonté de Dieu dans l'Écriture et dans la direction, la motion de l'étoile, il ne peut pas perdre la route. Voyez ? Et là, nous nous apercevons de quelque chose de très intéressant, de très important. L'esprit purifié, quand il prête moins d'attention au danger qu'à l'obéissance, se trouve dans une situation où il est protégé par Dieu. Je vais expliquer en citant un auteur. L'obéissance et la simplicité des vrais chrétiens les empêchent quelquefois de voir le péril qu'ils courent en suivant la voie de Dieu. Mais ils veillent sur eux. Ils protègent ceux qui ne songent qu'à faire leur devoir sans s'embarrasser des suites qui ne sont pas en leur pouvoir. Il n'y a que Dieu qui puisse tout prévoir. D'une certaine manière, l'erreur de ces mages n'est presque pas une erreur, puisque d'une certaine manière, elle est conforme à la raison, c'est-à-dire qu'ils cherchent le roi à Jérusalem, la ville du roi. Quand ils ne trouvent pas le roi à Jérusalem, par le roi Hérode, ils consultent l'Écriture sainte, parce que c'est quand même le roi Hérode qui les envoie à Bethléem. Ils consultent l'Écriture sainte, donc bonne attitude, ils écoutent les autorités appropriées, ce qui est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et que font-ils? Ils vont tout bonnement à Jérusalem, après avoir conféré avec le roi Hérode, puisqu'il est écrit, alors Hérode ayant pris les mages en particulier, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Les mages, guidés par l'étoile, prenons-en conscience, n'ont pas la moindre idée de la dangerosité d'Hérode. Hérode sera celui qui, quelques temps après, fera massacrer tout le canton de Bethléem, tous les enfants du canton de Bethléem. Hérode est un homme mauvais, est un homme méchant, est un homme impie au point de s'enquérir où doit naître le Messie pour essayer de faire périr le Messie, simplement, si j'ose dire, pour consolider sa dynastie qui, de toute façon, ne durera pas très longtemps puisque son fils, me semble-t-il, règnera après lui, peut-être encore un petit-fils, et puis après, ça sera la fin puisque, de toute façon, Jérusalem sera détruite, ainsi que le royaume de Juda en tant que tel. Donc, vous voyez, mes très chers frères, le chrétien qui marche conformément à la lumière de la foi et conformément aussi à un usage le plus strict possible de la raison, passe parfois à côté de dangers qu'il ignore. C'est pour cela que le chrétien ne doit pas être timoré, il ne doit pas être constamment en train de se dire qu'il faut qu'il circonvienne en quelque sorte les dangers qu'il passe à côté des dangers, tout ce qu'il doit prévoir le plus possible les dangers qui se présentent à lui, de telle sorte qu'il n'y tombe pas. Si les rois mages avaient pris conscience de la dangerosité et de la méchanceté d'Hérode, évidemment, ils n'auraient pas osé venir à Jérusalem. Mais d'une certaine manière, ils se seraient trouvés pris entre leur crainte d'aller à Jérusalem, de peur d'être peut-être tués ou molestés, et leur désir de trouver le roi des Juifs, parce que c'était quand même pour cela qu'ils étaient partis en voyage. Vous voyez ? Donc, vous allez dire, est-ce que, si je comprends bien, vous dites que le chrétien ne doit pas être prévoyant, que le chrétien ne doit être téméraire et qu'il doit être imprudent ? Pas du tout. Pas du tout. Il se trouve que les rois mages ne pouvaient pas connaître la dangerosité et la méchanceté du roi Hérode. D'une certaine manière, sa famille était connue pour sa méchanceté, sa cruauté, même envers les membres de sa famille, se massacraient allègrement les uns les autres. Mais, d'une certaine manière, les mages, poussés par la foi, n'ont pas considéré le danger que représentait Hérode. Bien souvent, mes très chers frères, nous nous rendons compte que nous sommes passés à côté de très graves dangers. Je pense que nous pouvons tous le constater pour nous, ou alors nous le constaterons un jour. Nous sommes passés à côté de très graves dangers sans que nous en ayons été conscients. Et peut-être que la seule chose qui nous a sauvés, ce n'était peut-être même pas notre désir de bien faire, mais c'est, d'une certaine manière, la grâce de Dieu qui nous a préservés. Qui nous a préservés tout en nous ayant guidés, d'une certaine manière, dans ces erreurs, si l'on peut dire. Et cela peut aller très loin dans un certain sens, mais il faut faire attention comment on le formule. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas parce que nous sommes passés très près du danger sans savoir que c'était un danger que nous avons été dans une attitude contraire à la volonté de Dieu. Si nous étions allés volontairement près de ce danger, nous aurions été coupables de témérité. Mais comme nous ignorions que c'était un danger, alors cela doit motiver notre reconnaissance a posteriori, après coup. Vous voyez, bien souvent, nous nous disons, mais si dans ma vie, j'avais persévéré de telle ou telle, dans telle ou telle chose, dans telle ou telle activité, si j'avais fait telle ou telle chose, si les hasards de la vie, comme on dit, ne m'avaient pas dirigé d'une manière ou d'une autre, je serais allé à la catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on se rend compte de cela? Il faut dire immédiatement, mon Dieu, merci de m'avoir protégé et continuez à me guider par vos voies. Ne permettez pas que je prenne moi-même les rênes de ma vie et que je m'écarte de vos sentiers. Quels sont les sentiers du Seigneur? D'une certaine manière, nous ne les connaissons pas dans leur ensemble. Nous ne pouvons que mettre un pied devant l'autre au moyen de la raison et de la foi, quitte à être rectifié par Dieu à un certain moment lorsque, disons, la raison doit être mise de côté par rapport à la foi. Vous voyez, sachant que les deux, en réalité, ne sont que à peu près les deux faces d'une même réalité, en tout cas d'une même nécessité pour l'homme. L'obéissance et la simplicité des vrais chrétiens les empêchent quelquefois de voir le péril qu'ils courent en suivant leur devoir, sans s'embarrasser des suites, mais qui ne sont pas en leur pouvoir. Parfois, faire ce que l'on doit faire peut éventuellement provoquer toutes sortes de problèmes et de remous. Et pourtant, il faut le faire. Et c'est là où, d'une certaine manière, nous nous apercevons que bien souvent, Dieu nous met, comme on le fait pour les chevaux, il nous met des œillères qui nous empêchent d'être effrayés par des choses qui, si nous les regardions en face, nous effraieraient, nous paralyseraient. Si Dieu avait dit aux rois mages, faites attention, à Jérusalem règne un roi très inique, très cruel, dans le fond du cœur duquel je vois la volonté de tuer le Messie. Vous vous rendez compte, si Dieu leur avait révélé cela en même temps que l'étoile, ils auraient été très effrayés. Nous devons, mes très chers frères, être reconnaissants de l'ignorance dans laquelle Dieu nous tient, tant de l'avenir lointain que de l'avenir proche. Bien souvent, nous avons fait des choses dans un certain contexte qui, si elles nous avaient été prédite à l'avance, nous aurait paru comme impossible ou incroyable, ou peut-être même que nous aurions été découragés et effrayés. Dieu protège ceux qui ne songent qu'à faire leur devoir sans s'embarrasser des suites, qui ne sont pas en leur pouvoir. Vous voyez la sagesse de cette maxime. Il faut prévoir certaines suites autant que cela est possible, mais on ne peut pas tout prévoir. Dieu seul peut tout prévoir. Le chrétien doit être prudent. Il doit être prudent comme un serpent, c'est-à-dire il doit être très, très, très averti des réalités de tout ordre, mais il doit faire confiance à Dieu avant tout. Vous voyez? Si nous prévoyons l'avenir, nous essayons de prévoir l'avenir, même rationnellement, pas par des moyens illicites, mais si nous essayons de prévoir l'avenir et que la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que nous devons renoncer au christianisme parce que, d'une certaine manière, cela pourrait nuire. Ça pourrait nuire à notre carrière, cela pourrait nuire à, que sais-je, à notre famille, à notre. Ce sont parfois des choses qui arrivent et qui sont de vrais enjeux. Eh bien, d'une certaine manière, nous devons toujours faire le bon choix, sachant que c'est très facile à dire quand on n'est pas dans ce cas-là actuellement, mais c'est très difficile évidemment à mettre en pratique, encore qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Mais il nous faut prévoir plus loin que les seuls intérêts temporels. Si je fais profession de christianisme, je vais perdre mon emploi. Mais un jour, je serai à la retraite de cet emploi, et puis un jour, je vais mourir, et je me retrouverai devant le grand juge qui me demandera pourquoi je n'ai pas été fidèle. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, il faut se souvenir que Dieu protège ceux qui ne songent qu'à faire leur devoir, c'est-à-dire à faire la volonté de Dieu telle qu'elle se révèle pour eux, polarisée selon le mode propre de leur état. Leur devoir sans s'embarrasser des suites qui ne sont pas en leur pouvoir. Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse tout prévoir. Alors, vous voyez, mes très chers frères, dans ce sermon, nous intéressons à cette intelligence d'un esprit qui vient à un esprit purifié. Nous voyons que l'intelligence d'un esprit purifié, ça peut, c'est un certain nombre de choses qui sont quand même, qui rejettent une certaine grossièreté dont nous avons parlé au début, mais c'est aussi un certain abandon à la volonté de Dieu qui ne se préoccupe pas tant des dangers que de la persévérance et de la fidélité à Dieu, dans quelque état que nous soyons. Revenons maintenant au roi mage. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, disent-ils, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Un excellent auteur nous dit ceci: Notre Seigneur Jésus-Christ est la paix des justes et le trouble des impies. Notre Seigneur Jésus est la paix des justes et le trouble des impies. C'est exactement ce que dit saint Paul lorsqu'il dit que notre Seigneur est pour les uns une odeur de mort et pour les autres une odeur de vie. C'est pour cela que la théologie nous dit, par exemple, que le Saint-Sacrement est une nourriture qui divinise, ou alors c'est un poison qui tue, qui rend fou, qui rend débile, malade, endormi, c'est-à-dire c'est la mort spirituelle, en réalité. Vous voyez, n'ayons pas peur des mots, notre Seigneur est puissant. La parole de Dieu qu'il est, il est le Verbe de Dieu, est tranchante comme un glaive qui tranche, qui sépare les jointures, les moelles.